Voilà, ce matin, je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13. Et nous lirons les trois premiers versets de ce chapitre, Actes 13, versets 1 à 3. Le titre de ce message fait suite à ce que nous avons vu la semaine dernière, le don de prophétie. Et aujourd'hui, je voudrais parler du ministère de prophète. Mais j'aurais pu choisir aussi comme thème à cette prédication, le modèle de l'Église d'Antioche. Tant je crois que cette assemblée a des choses à nous enseigner quant à notre propre Église. Acte 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le Trétarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Nous croyons que la Bible nous donne des instructions quant à la vie, à l'organisation de nos assemblées et nous tournons nos regards vers les églises du Nouveau Testament. Elles sont notre inspiration, elles sont notre source. Nous regardons à l'Église de Jérusalem et nous avons puisé là des bénédictions. Nous avons regardé à ces différentes assemblées et nous nous sommes dit, mais nous voulons vivre ce qu'ils vivaient dans leur temps. Et alors, recherchant leur grâce, les grâces qui les animaient, nous avons tourné nos regards vers le Seigneur qui a donné sa bénédiction, qui a donné son Esprit Saint. Et les églises ont été remplies de l'Esprit de Dieu et les dons de prophétie ont commencé à se manifester. Et ainsi nous avons commencé à retrouver certaines de ces puissances et de ces bénédictions qui se manifestaient dans ces églises du Nouveau Testament. Mais si nous regardons à ce qui est écrit dans ce texte, nous nous rendons compte qu'il y a encore des choses que nous n'avons pas pleinement retrouvé. Et parmi ces choses qui nous manquent et dont nous avons besoin, il y a l'exercice du ministère de prophète. Je voudrais parler de l'église d'Antioche comme une église modèle. L'église d'Antioche était une église visionnaire, une église missionnaire. C'est la première fois dans cette assemblée que des juifs et des gentils se sont retrouvés ensemble pour célébrer Jésus. Et c'est aussi de cette assemblée que sont partis les apôtres, notamment Paul et Barnabas, pour commencer à répandre la parole de lieu en lieu. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est ce que nous venons de lire au verset premier, c'est qu'il y avait dans cette assemblée d'Antioche de nombreux ministères. Nous y trouvons donc des apôtres, nous y trouvons des docteurs, nous y trouvons des prophètes. Et si l'église d'Antioche devenait pour nous un modèle? Et si dans quelques années, Dieu ayant béni, Dieu ayant donné, on pouvait dire de nos assemblées, de la nôtre en particulier, cette église est une église où l'on trouve des prophètes et des docteurs. Seriez-vous d'accord avec cela? Pendant longtemps, beaucoup ont cru, même dans nos assemblées, c'était un enseignement courant, que le ministère de prophète était un ministère lié à l'Ancien Testament. Et en lisant des textes comme dans Éphésiens 2:20 où Paul parle du fondement des apôtres et des prophètes, beaucoup de nos pères ont enseigné que les apôtres dont il est question sont les apôtres du Nouveau Testament et les prophètes étaient ceux de l'Ancien Testament. Et puis, on a compris que c'était pas cohérent. Quand Paul parle de l'Église fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, il parle bien sûr des apôtres du Nouveau Testament et des prophètes du Nouveau Testament. Pendant toutes ces années, Dieu a fait grâce. Alors que nous ne comprenions pas bien le fonctionnement du ministère de prophète, Dieu a permis que les prédicateurs en place, qu'ils soient évangélistes, pasteurs, docteurs, puissent à travers leur prédication manifester ce charisme prophétique. Et nous pouvons dire les uns les autres que nous avons été bénis plus d'une fois par une prédication qui était peut-être un message d'exhortation, d'édification, mais ce jour-là, pour nous, il y a eu un contenu prophétique qui a eu un impact dans notre vie. Dieu a fait grâce. Mais malgré tout, il est dans les plans du Seigneur, il est dans la volonté de Dieu d'établir dans ses églises des prophètes. Nous avons besoin de leur sensibilité. Nous avons besoin de leur perception des choses spirituelles. Oui, nous avons besoin d'entendre la voix des prophètes. Et je crois que cela nous éviterait bien des désagréments, des errements, des compromissions. Mais alors que nous aspirons à entendre ces hommes de Dieu, nous avons besoin de comprendre qui ils sont. Nous avons besoin de comprendre quelle est leur mission, quelle est leur autorité, quelle est leur place dans l'édification de l'Église. Ce matin, ce n'est pas un message prophétique que je vous apporte, mais c'est un message d'enseignement sur ce ministère de prophète, afin d'éveiller en nous, je dirais plus qu'une curiosité, mais une attente, un désir. Quand je parle de prophète, je voudrais m'arrêter un instant et préciser ceci. Je ne parle pas de frères et de sœurs qui, dans le temps d'un culte, dans l'église locale, poussés par le Saint-Esprit, vont commencer à manifester ponctuellement un don spirituel, un charisme de prophétie selon 1 Corinthiens 12-10. Quand je parle de ministère de prophète, je parle d'hommes, de serviteurs de Dieu mis à part, consacrés par Jésus, équipés par Jésus, en vue d'exercer sur une base permanente ce ministère de la parole avec une spécificité prophétique. Mais tout d'abord, arrêtons-nous sur la définition même d'un prophète. Un prophète, c'est un homme, permettez-moi de le dire aussi, c'est une femme. Dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs femmes prophétesses. Et parmi les plus connues, je ne pourrais que citer Myriam et puis Déborah. Donc la voix de Dieu se manifeste aussi à travers des femmes. Et ces hommes, ces femmes ont reçu de Dieu le ministère de représenter le Seigneur devant les hommes. Je vous rappelle, le sacrificateur représente les hommes devant Dieu. Il apporte les prières des hommes à Dieu. Le prophète, lui, va dans l'autre sens. Il se tient devant Dieu pour apporter la parole de Dieu aux hommes. Ils sont donc complémentaires. Le prophète a reçu cette mission particulière de communiquer cette parole divine. Ce qui veut dire que le prophète ne doit jamais parler de sa propre pensée ou par sa propre sagesse, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, de Pierre 1:21. Et le message qui est en eux est un message brûlant. Ils doivent absolument le transmettre. Rappelez-vous Jérémie disant « Si je me contiens, il y a un feu qui brûle en moi. » La semaine dernière, lorsque nous avons parlé du don de prophétie, nous nous sommes arrêtés un instant sur l'origine, l'étymologie grecque de prophète. Prophète en grec veut dire soit parler devant des hommes, des femmes, soit parler avant, le sens de prédire. Maintenant, je voudrais simplement aller vers les origines hébraïques. Et il existe principalement trois noms différents, avec chacun une signification particulière pour désigner cette charge des messagers de Dieu, des prophètes. Et il existe un verset où ces trois mots, ces trois noms particuliers sont regroupés. 1 Chronique 29-29, notez-le peut-être dans vos Bibles, comme ça vous pourrez facilement le retrouver. 1 Chronique 29-29, où nous lisons que les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant. Ne soyez pas mal à l'aise avec ce mot. Nous sommes là dans un cadre biblique. Dans le livre de Nathan le prophète, dans le livre de Gad le visionnaire. Nous trouvons cette version dans la Nouvelle Bible Seconde et elle est très juste. Nous avons là donc trois expressions, voyant, prophète, visionnaire. Celui qui voit, celui qui parle et celui qui reçoit des visions de la part du Seigneur. Il pourrait y avoir peut-être une confusion entre celui qui voit et celui qui a des visions, mais expliquons-la comme ceci. Celui qui voit, c'est celui qui, vraiment, qui a une perception, une grande perception des choses. Il voit les plans de Dieu. Celui qui a des visions, c'est quelque chose de ponctuel. Il reçoit des visions ponctuelles sur des choses très particulières. C'est là qu'on peut faire la différence entre ces deux formes de ministère prophétique. On les retrouve dans le Nouveau Testament. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortés et fortifiés par plusieurs discours, acte 15, 32. Jude et Silas sont des prophètes prédicateurs. Vous connaissez Agabus ? Agabus, lui, exerçait plutôt un ministère de visionnaire. Il recevait des visions ponctuelles, particulières, un message précis à apporter à certaines personnes dans certaines situations. Acte 11, 28, l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Et puis, nous trouvons aussi les voyants. À mon sens, Jean est un voyant du Seigneur dans le Nouveau Testament. Le livre de l'Apocalypse, dans lequel il est écrit dans Apocalypse chapitre 1, verset 19, « Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver. » Maintenant, je voudrais que nous réfléchissions un instant sur ce qu'est un ministère de prophète dans le Nouveau Testament. Car le prophète du Nouveau Testament, ce n'est pas tout à fait le prophète de l'Ancien Testament. Il n'évolue pas tout à fait dans le même cadre. Dans l'Ancien Testament, le prophète évolue aux côtés du sacrificateur et du roi. Et ensemble, ils forment un équilibre. Et quand ces trois ministères, ces trois offices travaillaient ensemble, il y avait une grande bénédiction sur Israël. C'était l'époque de David, de Tsadok, de Nathan et de Gad, les prophètes. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas pompeux de le dire, c'est ce que la parole nous enseigne, nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes tous héritiers du royaume et nous sommes tous prophètes. Donc le prophète ne se situe plus dans ce contexte-là, il se situe ailleurs. Où se situe-t-il ? Dans la dimension d'Éphésiens 4, 11, où le prophète travaille en relation avec les autres ministères de la parole, apôtres, évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc ce n'est plus du tout le même cadre. On n'est plus au temps d'Israël, dans l'Ancienne Alliance, on est dans l'Église, dans la Nouvelle Alliance. Ils ne travaillent plus de la même manière. Bien sûr, il y a des choses qui rappellent les prophètes de l'Ancien Testament, car ceux du Nouveau Testament restent aussi des prédicateurs de justice. Le prophète est avant tout quelqu'un qui est appelé par le Seigneur à dévoiler le péché et l'iniquité. C'est quelqu'un qui annonce le jugement à venir. C'est quelqu'un qui combat par sa parole la mondanité, le refroidissement, la religiosité dans l'Église. Oui, c'est un prédicateur de justice. Il abat, il retranche, il redresse, il corrige, il édifie. Il en trouve de nouvelles perspectives. Le prophète reste quelqu'un animé par un zèle pour la pureté de l'Église. Il est sensible à l'action des ténèbres. Il a une acuité particulière pour les fausses doctrines. Voilà donc les champs dans lesquels s'exerce le ministère de prophète. Certains ont utilisé cette image, disant d'un côté que l'apôtre est comme un lion, tandis que le prophète serait comme un aigle. D'ailleurs, vous le savez, dans la tradition, on dit que Jean était l'aigle de Patmos. Un aigle qui s'élève dans la présence de Dieu. Un aigle qui a donc une communion particulière avec le Seigneur. Il va chercher sa parole auprès de Dieu. Et le prophète est plus encore que tous les autres prédicateurs, un homme de prière et d'intimité avec Dieu. Comme l'aigle, sa parole est un message acéré, tranchant, pénétrant, semblable au cerf de l'aigle. Comme l'aigle, le prophète a une vision perçante. À ce propos, nous pouvons penser à la parole de Jésus, Matthieu 6, 22, qui disait que la lampe du corps, c'est l'œil. Et nous pouvons faire un parallèle avec l'Église pour dire que l'œil de l'Église, la lampe de l'Église, c'est le prophète. Quand notre œil fonctionne bien, nous nous orientons comme il convient. Et quand la lampe de l'Église fonctionne bien, qu'elle est en bon état, alors tout le corps est bien éclairé et il sera dirigé dans la bonne direction. Bien sûr, attention, lorsque la lampe éclaire mal. Et c'est pour ça que nous sommes toujours mis en garde contre les faux prophètes et que nous devons veiller sur cela. La prédication du prophète est une prédication donc tranchante et pénétrante. C'est un homme de Dieu qui est particulièrement sensible aux révélations du Saint-Esprit. Il est très sensible à la manière d'Élie, capable de reconnaître la voix de Dieu dans un murmure. Son oreille est exercée. Le ministère du prophète s'accomplit dans une grande diversité. Le prophète prêche, mais le prophète aussi partage des visions, des songes, des interprétations. Il peut être engagé dans des actions symboliques ou des images à la manière d'Agabus. Beaucoup de prophètes exercent une sensibilité particulière dans la louange et dans la musique, comme nous le voyons avec les prophètes de l'Ancien Testament. Le prophète est aussi un prédicateur inspiré. Et toute sa prédication est pétrie de charisme, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, de dons de discernement des esprits, de dons de foi. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'entendre la voix du prophète. Nous avons besoin que la lampe prophétique brille au milieu de nous. Le prophète reçoit donc de la part du Seigneur un message très important. C'est un message puissant, c'est un message plein de sainteté, de grâce. Et il lui appartient d'apporter ce message dans la plus grande pureté. La semaine dernière, je disais que nous prophétisons tous en partie. Mais le prophète, établi dans un ministère, doit veiller à ce que cette partie soit la plus petite possible. Il doit interférer le moins possible avec le message de Dieu. Il doit se mettre en retrait. Le prophète n'est pas quelqu'un qui vient pour briller par lui-même, mais c'est quelqu'un qui vient faire briller Jésus-Christ et la parole de Dieu. Mais jamais la Bible nous pousse à recevoir le message d'un prophète comme un message infaillible. Au contraire, elle nous dit qu'il est impératif d'examiner la parole prophétique. Ce n'est pas du doute. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la maturité. L'apôtre Jean a cette parole assez sévère. 1 Jean 4:1, il nous dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et nous nous étonnons des fois que certains qui revendiquent le titre de prophète jettent presque un anathème sur ceux qui oseraient remettre en question une petite partie de leurs paroles. Mais Paul a-t-il été humilié lorsque dans la synagogue de Bérée, après avoir enseigné les Juifs de Bérée, ceux-ci ont voulu confronter cet enseignement à la parole ? Paul en a-t-il été offusqué ? Les a-t-il traités de maudits ? Au contraire, la Bible met en avant la sagesse et la maturité et les bons sentiments de ces Juifs de Bérée. Mes frères et sœurs, si jamais vous entendez un prophète qui vous oblige à entendre sa parole et à la recevoir sans rien dire, alors sachez que c'est un faux prophète. Nous devons examiner leur message. Attention, ça ne s'arrête pas là, et je dirais même qu'il y a quelque chose de encore plus important. Jésus nous l'enseigne, c'est d'examiner les fruits de leur vie. Matthieu chapitre 7, le Seigneur dit: gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un prophète doit mener une vie personnelle pure et sainte. Comment peut-il transmettre la parole de Dieu, cette parole sainte, cette parole trois fois sainte, si lui-même n'est pas un homme saint? Et je dirais que plus le ministère de ce prophète est marqué par les charismes, et plus sa vie doit être authentifiée par le fruit de l'esprit. Rappelez-vous, dans la loi, dans la description du vêtement sacerdotal, il est dit qu'au bas de la robe du souverain sacrificateur, il y avait une grenade, une clochette, une grenade, une clochette. Un charisme, un fruit de l'esprit. Un charisme, un fruit de l'esprit. L'autorité d'un prophète, d'après Jésus, se fonde avant tout sur les fruits qu'il porte. Mais elle se fondera aussi, nous le savons, sur la qualité éprouvée de ses paroles. Un prophète doit être éprouvé sur ses paroles. Je voudrais maintenant resituer l'importance des prophètes dans l'édification de l'Église. Parce que clairement, ça reste une énigme pour nous, n'est-ce pas? Soyons francs. Et là, je m'adresse essentiellement à des frères et sœurs qui sont nés spirituellement, qui ont grandi dans des assemblées de Dieu, pourtant un mouvement de Pentecôte qui a découvert de grandes choses, un mouvement dans lequel aussi de nombreux prophètes se sont manifestés. Le seul souci, c'est que jamais ils n'ont été reconnus officiellement comme prophètes. Mais pour nous, le ministère de prophète reste une énigme. Qu'est-ce que donc un prophète? Sont-ils utiles? Quelle est leur place aujourd'hui? La première chose que je constate, c'est que partout, dans les églises des Actes, nous trouvons des prophètes. Actes 11, 27, il est question de prophètes, pas un, mais des prophètes qui descendent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, Agabus, va annoncer par l'esprit une grande famine. Dans Actes 13, nous l'avons lu à Antioche, il y avait non pas un prophète et des docteurs, mais des prophètes et des docteurs dans cette église. Ils étaient vraiment bénis, n'est-ce pas? Acte 15, 32, de Jérusalem, deux prophètes, Jude et Silas, sont venus, ils ont accompagné Paul et Barnabas jusqu'à Antioche, et là, ils vont prêcher, et encourager, et fortifier les frères. Plus tard, acte 21, 9, à Césarée, Paul s'arrête dans la maison de Philippe, et là, il y rencontre quatre de ses filles qui prophétisaient. Et c'est aussi, encore une fois, là qu'Agabus revient pour prophétiser une parole à l'apôtre Paul. Ils étaient donc partout présents. Ils faisaient partie du paysage, en quelque sorte, de la vie de l'Église. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils? Auraient-ils disparu du plan de Dieu? L'Église serait tellement parfaite, tellement sensible à la voix du Seigneur que nous n'aurions plus besoin des prophètes? Mais mes frères et sœurs, ayant lu la parole de Dieu, nous devrions avoir la même soif que nos pères lorsqu'ils ont découvert la promesse de la Pentecôte et dire « Mais Seigneur, eux ont découvert cela, mais ils n'ont pas tout découvert, nous ne leur imputons pas cela, mais nous voudrions, nous avons besoin d'entendre les prophètes de Dieu. » Les prophètes sont importants dans la vie de l'Église. L'apôtre Paul les cite en second après les apôtres. 1 Corinthiens 12, 28, il dit « Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes et troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles. » Ils viennent en second, tout de suite après, les apôtres. Et puis je lisais ce texte d'Éphésiens 2:20, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le prophète comme l'apôtre a un ministère de fondation. Bien sûr, dans ce texte, Paul fait référence à l'Église universelle, à la parole, à la doctrine que les apôtres nous ont transmise. Et toutes les églises sont fondées sur cette révélation apostolique. Mais je dirais que localement, dans leur croissance, dans leur développement, même dans leur établissement, les églises locales ont besoin d'un surfondement. Pierre est Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et nous avons besoin, nos églises ont besoin de se reposer sur des ministères puissants, sur des ministères apostoliques et prophétiques. Parce que savez-vous ce qui se passe à la place? Eh bien, on prend le ou les pasteurs, les anciens qui sont là, et comme des chewing-gums, on les étire dans tous les sens. Il faut que le pasteur soit pasteur, docteur, évangéliste, prophète, qu'il fasse même un travail apostolique d'établissement des églises. C'est comme du chewing-gum, on les tire partout. Mais à force d'étirer, il ne reste plus grand-chose. Hein. Et ça finit même par craquer. Nous avons besoin d'églises qui reposent sur autre chose qu'un fondement de chewing-gum. Que chacun occupe la place pour laquelle le Seigneur l'a appelé. Que le pasteur remplisse son ministère de pasteur. Que l'évangéliste remplisse son ministère d'évangéliste. Et si nous avons dans nos assemblées, même s'ils ne sont pas là en permanence, mais des hommes qui sont comme des référents apostoliques et des référents prophétiques, alors nous aurons un surappui aussi. Comprenez que si tous ces ministères complémentaires se retrouvent dans l'assemblée, alors les fondations de l'Église sont étendues. Ce n'est pas simplement le ministère d'un seul homme, mais c'est le ministère de plusieurs. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Quelle fondation extraordinaire il y avait dans cette église! On comprend pourquoi du milieu d'eux, le Seigneur a pu appeler des apôtres et les envoyer au loin, sans même nuire à cette assemblée, tellement elle était solide, tellement elle était riche. Je voudrais dire aussi que le ministère de prophète dans le Nouveau Testament n'est pas un ministère solitaire. Je faisais le lien tout à l'heure avec l'Ancien Testament. Non, dans le Nouveau Testament, le prophète dans l'Église n'est pas un espèce d'Élie qui apparaît comme ça de temps en temps avec son vêtement en peau de chameau et mangeant des sauterelles et du miel. Non, le prophète dans le Nouveau Testament, c'est un ancien dans l'Église. C'est un homme de l'Assemblée, un homme, une femme de l'Assemblée, c'est quelqu'un qui est dans l'Église. Il participe à l'édification de l'Église, il travaille en coopération avec le reste des ministères pour amener l'Église dans une nouvelle croissance, dans une nouvelle édification, une nouvelle vision. Son but principal, c'est toujours d'être ce ministère de justice et de rappeler les fondations, de ramener l'Église sur ses fondements lorsqu'elle s'éloigne. De rappeler la vision de développement, de croissance de l'Église. Le prophète ouvre des perspectives. Et l'évangéliste, le pasteur, travaille dans cette perspective nouvelle. Le docteur vient pour consolider l'ensemble. Et l'Église croit. Le prophète dans l'Église n'est pas quelqu'un contre tous les autres. Il est quelqu'un qui travaille avec les autres. L'apôtre Paul dit notamment ceci dans 1 Corinthiens 14, 6. De quelle utilité vous serais-je si je venais en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Ici, l'apôtre Paul met en liaison deux ministères. Le docteur, qui parle en connaissance et qui expose la doctrine, et le prophète, qui parle par révélation et qui communique la prophétie. Les deux sont utiles! Les deux sont nécessaires, les deux sont complémentaires. L'enseignant apporte cette parole solide qui consolide, qui édifie, qui structure, qui organise, tandis que le prophète, par sa parole, embrase les vies, redresse s'il le faut, élargit nos cœurs, notre foi, notre vision. Ensemble, ils travaillent à l'édification de l'Église. Ensemble, ils sont utiles. Nous avons besoin des deux. C'est le modèle de l'Église d'Antioche. Amen. En conclusion, en quoi avons-nous besoin aujourd'hui du ministère de prophète? À vrai dire, on pourrait dire, on a réussi à se débrouiller sans eux. Il y a bien des églises dans le monde entier qui ont grandi avec une taille phénoménale, sans même avoir la vie de l'esprit, à Pentecôte. Donc, en quoi sont-ils nécessaires? Bien, je crois qu'ils font partie du plan de Dieu. Je crois que leur parole nous manque, trop souvent. Bien sûr, les anciens, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes cherchent la face du Seigneur pour essayer de combler ce manque. Mais eux, ils sont mis à part pour cela. Et si leur voix se faisait entendre, elle serait parfois brûlante, parfois tranchante, mais ce serait la parole de Dieu au milieu de nous. Nous ne voulons pas simplement des prophètes qui nous prophétisent sur nous. Nous voulons des prophètes qui nous apportent le conseil de Dieu pour nos assemblées, pour nos vies, qui nous montrent un chemin, qui ne sont pas là pour nous bénir, 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 mais nous voulons la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous amène de la part du Seigneur? Nous en avons besoin. Mais je dirais, comment faire? Comment faire, Seigneur? Dans l'Ancien Testament, il y avait l'école des fils des prophètes. Mais nous savons que ce n'est pas par une formation qu'un prophète pourra se lever. S'il n'y a pas un appel à la base, toutes les formations ne serviront à rien. Oui, il y a besoin d'un appel et ensuite d'une formation, ça c'est une bonne chose. Alors que devons-nous faire? Si nous prenons conscience de ce besoin, si nous avons besoin, envie d'entendre la parole de Dieu, je crois simplement qu'il faut faire ce que nos pères ont fait lorsqu'ils ont recherché la vie de l'Esprit, de commencer à prier Dieu. Pour que déjà les prophètes qui sont au milieu de nous, dans nos assemblées, puissent pleinement exercer leur ministère. Mes frères et sœurs, que les prophètes qui sont dans nos églises, oui, je vais le dire, pardonnez-moi, c'est cru, c'est très direct, mais ne perdent pas du temps à s'occuper des tâches pastorales. Il y a des pasteurs pour ça. Que chacun soit à sa place. Et puis, de dire, Seigneur, mais et si dans quelques années, nos assemblées, notre assemblée pouvait devenir une église comme Antioche, dans laquelle il y ait des prophètes et des docteurs. Alors dès aujourd'hui, Seigneur, il nous faut commencer à prier, parce que former un prophète, ça prend du temps. Ça prend du temps. Des années à l'écoute de Dieu. Seigneur, dès aujourd'hui, dans l'église, commence à mettre à part. Commence à mettre à part des hommes, des femmes que tu marques de cette grâce particulière. Samuel a été mis à part, il était tout enfant, et Israël a vu grandir Samuel. Et Israël a constaté que Dieu confiait sa parole à Samuel. Et alors nous allons voir des jeunes gens commencer à se lever, peut-être vont-ils commencer à prophétiser dans l'église. Il va y avoir une marque de mise à part sur leur vie. Et alors nous allons commencer à les entendre. Et nous n'allons pas les rabrouer, nous allons les encourager. Et nous allons les regarder, nous allons prier pour eux, pour qu'ils grandissent. Et nous n'allons pas leur dire, mais celui-là, il se prend pour qui maintenant? Nous allons dire, c'est un don du Seigneur à l'Église. Seigneur, nous avons besoin de prophètes dans nos assemblées. Sans vision, le peuple périt. Si la trompette ne rend pas un son clair, personne ne sera prêt pour le combat. Nous avons besoin d'entendre la parole des prophètes. Et que l'Église d'Antioche soit notre modèle. Un modèle que nous atteindrons, Dieu voulant, non pas demain, mais dans quelques années, à condition que nous commençons à prier pour cela dès aujourd'hui. Priez le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson, des ouvriers qualifiés. Seigneur, envoie des prophètes dans ton Église. Alléluia. Seigneur, nous sommes face à cette Église d'Antioche et lorsque nous regardons la richesse des ministères qui s'exerçaient dans cette assemblée, nous sommes, Seigneur, comme pris de court et nous sommes à la fois émerveillés. Combien, Seigneur, combien nous avons besoin de l'exercice de tous les ministères. Seigneur, le ministère de l'Église, l'édification de l'Église ne peut pas reposer simplement sur une forme de ministère, que ce soit le pasteur ou le docteur. Seigneur, tu as prévu tous ces ministères. Et tu veux enrichir tes églises de tous ces ministères. Seigneur, je veux te prier pour que du sein de nos assemblées, du sein de notre Église ici à Paris, se lèvent des prophètes. Des frères qui vont œuvrer à l'édification de l'Église. Seigneur, nous avons besoin d'entendre la parole prophétique. Quand Jésus a exercé son ministère, il y avait une grande soif en Israël. Depuis 4 siècles, la voix des prophètes était éteinte. Et quand Jésus apparut, le peuple a dit « Voilà un grand prophète ». Seigneur, nous croyons que dans les temps de la fin, tu veux restaurer ton Église pleinement. Tu veux restaurer les charismes dans l'Église. Mais tu veux restaurer aussi tous les ministères. Père, je ne sais pas comment nous allons faire, mais je te prie de nous conduire sur ce chemin et déjà de nous émerveiller en commençant à travailler dans le cœur de plusieurs parmi nous. Seigneur, souviens-toi de nos prières. Nous voulons cela. Je veux cela pour notre assemblée. Dans le nom de Jésus. Amen.